Interview.
1 du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. C'est l'avant-dernière interview de l'année et je suis en compagnie de Corinne Morel-Darleux. Bonjour.
Bonjour.
C'est un nouveau compte-rendu de mandat radiophonique après cette plénière des 19 et 20 décembre dont vous sortez juste avec des cernes jusque-là.
Oui, j'arrive vraiment juste directement de Lyon puisque cette session a duré beaucoup plus longtemps que prévu. On a passé 23 heures en session, on a été obligé de prolonger d'une nuit notre séjour lyonnais.
Bon, mais un mot là-dessus d'ailleurs, comment ça se passe? Vous restez concrètement assis 23 heures, faut s'enchaîner du café, de la cocaïne, comment?
Ben, en fait, on est enfermé dans ce bocal pendant des heures. Le premier jour de session là, qui était donc mercredi par exemple, on est resté à la région de 10h à 23h. Donc voilà, en enchaînant, on a quand même eu droit à une pause repas d'une heure, mais sinon ouais, ça s'enchaîne. Là c'est aussi une des grosses sessions de l'année puisque c'est la session budgétaire, donc c'est toujours un moment très important parce que c'est ce qui dirige un petit peu les orientations budgétaires pour toute l'année qui vient. C'est aussi un moment pour les groupes d'opposition de porter des amendements, des contre-propositions, donc c'est toujours des sessions qui sont un petit peu plus importantes. Après, la difficulté qu'on a et qui est récurrente, c'est que Laurent Wauquiez continue à penser systématiquement qui peut faire tenir ces choses-là sur une journée et demie, alors que de toute évidence, ça va prendre davantage de temps, mais c'est pas anticipé et ça donne toujours lieu à des complications après d'ordre logistique et puis des discussions sans fin à l'Assemblée régionale dont on pourrait se passer si c'était prévu un peu en amont.
Alors non seulement ça rallonge la session qui au lieu de faire une journée et demie en fait deux, mais est-ce que en plus c'est pas un peu bâclé?
Bah, c'est un peu bâclé et on n'arrive pas à faire en sorte d'avoir des vrais débats. C'est un problème récurrent depuis le début du mandat, c'est-à-dire que on a un espèce de jeu de ping-pong avec les groupes qui présentent leurs amendements et puis des réponses parfois très lapidaires de la part de l'exécutif qui répondent en moins d'une minute en donnant simplement un avis défavorable sans qu'il y ait vraiment d'écoute en fait des idées qu'on peut porter et sans qu'il y ait du coup de vrais débats démocratiques. Alors les discussions continuent. Là, Laurent Wauquiez a eu l'air d'ouvrir sur le fait que qu'il y ait moins d'amendements de présentés et davantage de temps de débat. Mais ça fait plusieurs fois qu'on a des propositions dans ce sens et qu'elles ne sont pas suivies des faits. Donc j'espère qu'on va finir par y arriver avant la fin du mandat. Parce que du coup, là, c'est vrai que c'est extrêmement frustrant parce que ça représente des semaines de travail. On fait un vrai travail sérieux, argumenté, fouillé. On bosse nos amendements, on va chercher des chiffres, des rapports. On évalue le financement qu'il faudrait. Il y a un vrai travail de fond qui est effectué et qui est malheureusement souvent balayé du revers de la main pour des raisons finalement assez dogmatiques, alors que certaines de ces propositions pourraient tout à fait être adoptées par la majorité de l'Assemblée. Donc voilà, c'est un exercice qui est assez frustrant, je dois dire.
On sent de la fatigue plus que la session seulement, hein, Corinne Morel-Darleux. Alors, par exemple, le train. Alors, une série d'amendements, en plus, nous, ça nous concernait très directement ici dans cette vallée, puisqu'on a ce fameux roman Gap hein, qui a été arrêté et dont on a appris en même temps qu'il était géré en fait par la région PACA.
Ouais, alors c'est marrant.
Donc,
parce que
il y a une proposition de reprise.
J'ai entendu dans votre phrase, on a ce roman et c'est un vrai roman effectivement, c'est un feuilleton qui n'en finit pas, puisque effectivement on a plusieurs soucis de trains qui sont menacés dans le coin. C'est le cas de la ligne historique des Alpes entre Grenoble et Gap. C'est le cas de ce fameux roman Gap effectivement avec des menaces de suppression d'arrêt sur Saillant, avec un train, le 17359, qui devait être supprimé, qui finalement a été remplacé par un car, qui doit être à nouveau remplacé par un train, puisqu'il y a eu un engagement pris par la vice-présidente au transport de la région, Martine Guibert. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, pour notamment ces deux lignes, mais aussi l'avant-pays Savoie, et d'autres lignes qui sont dans le même cas ailleurs dans la région, on a voulu profiter de ce budget pour proposer justement un amendement budgétaire prévoyant de mettre de l'argent pour ces lignes du quotidien qui sont soit menacées, soit sur lesquelles il y a des horaires qui ont été supprimés dans certaines lignes. Et donc, on avait un amendement qui allait dans ce sens et qui, lui aussi, a été écarté par l'exécutif. Alors, ce qui est très dommage, c'est que Martine Guibert, la vice-présidente au transport, n'était pas présente à ce moment-là pour des raisons personnelles. Et que c'est donc Brice Hortefeux qui nous a répondu sur cette question, question que, visiblement, il ne maîtrise pas et qui ne l'intéresse pas à beaucoup, puisque là aussi, on n'a pas vraiment eu de débat et que la chose a été écartée très rapidement.
Cet amendement portait donc sur le maintien, une sorte de désir que là où engagement que la région sur le TER notamment mettrait des fonds par exemple ou
oui tout à fait dérigerait. Tout à fait, parce que finalement c'est beaucoup une question aussi d'investissement et d'argent hein, à chaque fois, parce que en réalité par exemple pour le train qui nous intéresse ici, ce fameux TER 17359, le matériel existe
et en plus il était plein. Enfin, il y a plusieurs.
C'est probablement un des trains les plus utilisés dans la vallée de la Drôme, ouais. Effectivement, de tout le service TER. Donc, le besoin existe, la mobilisation grâce au collectif Garano existe, et le matériel roulant, le train, existe. Donc, à un moment donné, il s'agit simplement de décider de mettre de l'argent là-dessus. Je suis absolument persuadée que la région PACA, si c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui paye, n'y verra pas d'inconvénient. Donc, c'est avant tout une question d'arbitrage, là aussi, budgétaire, qui sont des arbitrages, on le sait, politiques. Hein. Et du coup, voilà, c'est cet argent-là, du coup, il n'y a pas eu le choix de le mettre pendant dans cette session sur CTER. À côté de ça, voilà, on a 137 millions d'euros qui ont été annoncés pour la filière aéronautique, par exemple.
Et qui concerne quoi, d'ailleurs, dans notre secteur ?
Qui concerne l'aéroport de Clermont-Ferrand, notamment, mais qui concerne aussi une subvention à Dassault Industries, par exemple. Voilà, donc la région lance un grand plan aéronautique, mais par contre, ne met pas les sous qu'il faudrait pour faire fonctionner les trains, ce qui est toujours un peu surprenant et qu'il est de plus en plus au fur et à mesure que les rapports s'empilent sur la question du réchauffement climatique, sur le mouvement des gilets jaunes et le besoin d'avoir des transports en commun comme alternative à la voiture. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on a cette espèce d'impression totalement schizophrénique d'avoir d'un côté des grandes déclarations de part et d'autre, hein, d'ailleurs, parce que Laurent Wauquiez n'a pas le monopole des grandes déclarations, mais et à côté, quand on est en situation de faire, quand on a les leviers, quand on a les budgets, quand on est aux manettes de la deuxième région de France, et ben les actes ne suivent pas.
Oui, Laurent Wauquiez qui s'est quand même pas mal illustré pour ses prises de position ces derniers temps en tant que représentant numéro 1, hein, soi-disant, de l'opposition des Républicains. La question se pose. Vous avez aussi porté des amendements sur le climat, puisqu'on en parlait, hein, sur ces questions de réchauffement climatique. Alors, on peut en décrire un peu, quelques-uns ?
Oui, tout à fait. En fait, on est parti du constat qu'il n'y avait pas grand-chose qui bougeait, ni du côté du gouvernement, ni du côté de cette fameuse communauté internationale, hein, parce qu'on sort de la COP24, ouais. ce nouveau sommet de négociation sur le climat qui a à nouveau été un sommet très désastreux. décevant, dont ne ressort pas grand-chose. Et donc voilà, face à cette inaction politique, il y a quand même de plus en plus de personnes qui, à l'inverse, sur le terrain, prennent conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que cet été a été déterminant pour ça, parce que ne serait-ce que dans notre région, tout le monde a vu les images du lac d'Annecy totalement asséché. Tout le monde a entendu parler maintenant des écroulements qui ont lieu de plus en plus fréquemment en montagne, notamment sur le massif du Mont Blanc. Tout le monde a vu les images des glaciers qui fondent. Enfin, voilà.
La Pyrale du Buis, au moins.
Les viticulteurs voient bien aussi, sans parler des autres agriculteurs, maraîchers, etc., touchés par la sécheresse. Donc, tout le monde commence à voir, là, vraiment, très concrètement, que le réchauffement climatique devient perturbant, s'installe et commence à avoir des conséquences, y compris économiques, sur un certain nombre de filières, qu'elles soient touristiques, économiques, agricoles, etc. Et donc, on avait décidé avec mon groupe de vraiment prendre ce fil rouge-là pour nos amendements budgétaires et de proposer des choses très concrètes qui permettraient à la fois d'améliorer la vie des gens dès aujourd'hui, mais qui permettent aussi de commencer à s'adapter justement à un changement de climat, des sécheresses plus fréquentes et de regarder cette réalité en face et de prendre des mesures qui pour nous s'imposent. C'est des choses très, très concrètes, parfois très simples, hein. On a par exemple proposé un plan ambitieux pour planter des arbres à la fois en ville et à la campagne. En ville, on sait que ça procure des îlots de fraîcheur pendant les canicules. Ça permet d'améliorer aussi la qualité de l'air, puisque les arbres, on le sait, stockent du carbone, mais ils absorbent aussi des particules fines. Donc, ils améliorent la qualité de l'air. Ils permettent, il y a des expériences qui ont été menées, hein, d'éviter même un certain nombre de problèmes de santé publique, voire de décès. Donc, c'est quand même pas rien, pas négligeable. En plus, ça crée aussi des refuges de biodiversité à l'heure où on parle de sixième extinction des espèces. Donc on a proposé, voilà, par exemple, tout simplement de planter symboliquement un arbre par nouvelle naissance dans la région.
C'est trop poétique, c'est trop.
Ouais, sans doute. Malheureusement, c'était quelque chose de très concret. C'est là où je disais que bon, voilà, on peut pas dire que planter des arbres, ce soit de gauche ou de droite ou de je ne sais quoi.
A priori, non. Ouais.
À un moment donné, enfin, on essaye quand même aussi d'être raisonnable parfois dans les amendements qu'on propose et de proposer des choses qui pourraient être acceptées. Cette proposition n'a pas été retenue, mais de la même manière, on a proposé de déployer un dispositif qui est prévu par la loi et dont la région pourrait s'emparer, qui sont des plans alimentaires territoriaux pour relocaliser là aussi l'approvisionnement en alimentation. C'est quand même un besoin de base. On sait aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de risques de rupture d'approvisionnement. On parle de différents scénarios potentiels d'effondrement et nous on considère que c'est de la responsabilité de la collectivité d'y faire face. Et puis de toute manière, il est bon d'avoir ces plans alimentaires territoriaux pour tout un tas de raisons. On ne peut pas continuer à se nourrir de produits qui ont fait le tour du monde pour arriver ici, c'est quand même un comble. Donc ça n'a pas été retenu non plus. On a proposé de travailler sur les accès à la baignade pour les habitants de la région. Là aussi, c'est à la fois de l'agrément, mais de la même manière, avec la multiplication des épisodes de chaleur ou de canicule, ça peut aussi être un vrai bienfait pour plein de gens. Ça n'a pas été retenu. On a proposé des grandes traversées blanches, c'est-à-dire de pouvoir avoir des grandes randonnées à travers nos montagnes, pas seulement en ski de piste, hein, qui est de plus en plus menacé par la raréfaction de la neige, mais aussi en ski de fond. Là aussi, on n'est pas dans des mesures très marquées idéologiquement. Ça n'a pas été retenu non plus. On a proposé des chèques de 2000 euros pour aider les particuliers à rénover leur logement, à faire des économies d'énergie. Ça n'a pas été retenu, alors que c'est une mesure qui a été votée à la majorité en région Occitanie, y compris par la droite, y compris par le centre, par l'ensemble des élus. Bah là, ça n'a pas été retenu non plus par la majorité de Laurent Wauquiez. Voilà, je pourrais continuer, la liste est longue. En réalité, aucun des amendements de l'opposition n'a été retenu sur ces 23 heures de session.
De la vôtre d'opposition et des autres aussi ?
L'ensemble de l'opposition. Les seuls amendements qui ont été retenus sont 2-3 amendements de l'UDI ou du centre. Voilà. Voilà le bilan de cette session budgétaire en termes d'ouverture tout simplement à des propositions raisonnables qui puissent venir d'autres bords politiques et avec un effort pour se hisser à la hauteur de l'intérêt général de la part de l'ensemble des groupes qui malheureusement n'a pas été entendu par l'exécutif de Laurent Wauquiez.
Sur cette question du climat, est-ce que pour autant cet exécutif avait fait des propositions qui, selon vous, vont dans un sens correct? C'est un début, un petit pas peut-être.
Alors il y a quelques propositions quand même qui sont faites et des choses qui sont faites au niveau de la région bien sûr qui vont dans le bon sens. Pour l'instant, pas suffisamment par rapport à ce qui serait nécessaire, pas suffisamment non plus par rapport au discours qui est tenu de plus en plus par la majorité. Je tiens à le souligner parce que cette session, elle a été particulièrement pénible le premier jour parce que sur ces amendements, du coup, on a beaucoup porté cette question du climat, de la biodiversité dans l'Assemblée et on a eu face à nous des prises de position des élus du Front National particulièrement déroutantes, je dois dire, sur le changement climatique, puisque les élus du Front National se sont succédés pour expliquer qu'il n'y avait pas de dérèglement climatique, que ils ont cité des chiffres hallucinants en nous expliquant que la température n'avait pas augmenté depuis 1948, que tout ça était des inventions, que le GIEC avait été manipulé, des choses que je ne pensais pas pouvoir entendre encore de nos jours, ce qui est par ailleurs très inquiétant sur la capacité, à mon avis aussi, de quelqu'un comme Donald Trump à valider le déni climatique, notamment chez nous, au sein du Front National, mais pas seulement. Je pense qu'on a là une vraie source d'inquiétude. Et donc, toujours est-il que je dois souligner que par rapport à ça, Éric Fournier, qui est vice-président à l'environnement, et Laurent Wauquiez lui-même ont tous les deux eu des prises de parole très fortes dans l'Assemblée pour dire que ses propos, la teneur de ses propos et le déni climatique dont faisaient preuve les élus du Front National était absolument insupportable et inacceptable dans l'Assemblée. Et que voilà, ça a choqué tout le monde, y compris jusque dans les rangs des Républicains. Donc ça, c'est voilà, au moins on a eu pour la première fois une prise de parole de cette majorité
contre le
très claire, très forte, non seulement contre le Front National, mais pour dire oui, il y a un dérèglement climatique, c'est une question grave, sérieuse, et nous devons la prendre en charge. Donc ça, c'est déjà voilà une chose de fait. Après, dans les actes, on n'est pas encore du tout niveau de ce qu'il faudrait faire. Mais les discours commencent à changer, les mentalités commencent à évoluer et nous ne désespérons pas que du coup ça se retrouve de manière plus forte dans les politiques régionales.
La chasse par contre, elle, ça va, hein ?
Oui, ça, du côté de la Fédération régionale de la chasse, c'était un peu Noël avant l'heure, puisque, comme on s'en souvient, il y avait déjà eu une subvention de 3 millions qui avait été accordée en 2016 pour la Fédération régionale de la chasse, au titre notamment d'actions d'éducation à l'environnement et de préservation de la biodiversité. Bon, ça avait quand même fait pas mal de de polémique, puisque non seulement c'est une très grosse somme, mais en plus elle s'était assortie du fait d'évacuer du tour de table hein, des associations historiques comme la FRAPNA par exemple ou la LPO qui jusqu'ici
professionnelle dans ce domaine.
Voilà, ouais. Et puis qui jusqu'ici faisait partie de ces actions d'éducation à l'environnement.
Pardon, mais on pouvait mesurer d'ailleurs leur activité. Elles faisaient des bilans, elles produisaient des comptages, etc. Alors, est-ce que ça a été fait par la Fédération de chasse ? Est-ce que vous pouvez le mesurer à la région ?
Alors, pas du tout, puisqu'on devait avoir un bilan de ces 3 millions, ce qui est quand même la moindre des choses. Hein. C'est une somme importante qui avait été attribuée sur la base d'objectifs, de fiches actions qui devaient être remplies par la Fédération régionale de la chasse. Et donc, on devait avoir un bilan que nous avons réclamé à corps et à cri par le biais notamment de notre élue Fabienne Gréber qui suit ces questions-là, que nous n'avons pas eu. En revanche...
Mais il existe ?
Ah bah ça, nul ne le sait. En tout cas, nous ne le savons pas. Voilà. En revanche, du coup, voilà, il y a une nouvelle subvention là, qui a été attribuée de plus de 3 millions cette fois-ci, dont une partie, 600 000 euros, est consacrée à du matériel. Donc, c'est des tables d'éviscération, des couteaux, de l'équipement, puisque la nouveauté de cette opération, c'est que désormais, les chasseurs vont pouvoir commercialiser le produit de leur chasse, la venaison. Et non seulement ils vont pouvoir commercialiser ça, ils y sont aidés par la région avec cet équipement en table d'éviscération, mais en plus ils vont pouvoir bénéficier du label La Région du Goût, qui a été mis en place par la région. Donc,
c'est dommage quand même, parce qu'avant, ils donnaient une partie de la venaison, parfois même à des associations caritatives.
Ils pourront continuer à le donner, mais c'est vrai que c'est un gros encouragement à renforcer la filière, avec en plus même de l'aveu de certains chasseurs, un esprit qui n'est pas forcément celui de la chasse, je ne sais pas comment dire, traditionnel, artisanal, des quelques amoureux de la nature qu'il y a effectivement encore parmi les chasseurs. Là, en gros, c'est en fait un encouragement à continuer à grainer les sangliers, à faire des élevages de perdrix pour pouvoir mieux les chasser derrière, puisqu'il y aura en plus maintenant un but de rentabilité et de rétribution, ce qui risque d'encourager une pratique de la chasse qui n'est pas forcément très respectueuse justement de l'environnement, de la biodiversité et de toutes ces missions au titre desquelles on en est à plus de 6 millions d'euros de versés à la Fédération régionale de la chasse.
Cette session budgétaire vient proposer le budget 2019, donc il y a déjà eu 2017, 2018, 2016 qui a été même retoqué. On en est où de ces histoires ? Est-ce qu'on continue à voter des budgets qui en fait risquent quand même d'être déboutés par la suite ? Trouvera-t-on le conflit d'intérêts sur cette question-là, après les canons à neige ?
Le premier budget de Laurent Wauquiez, celui de 2016, a effectivement été annulé par la justice suite à un recours que nous avons porté devant le tribunal administratif sur des problèmes de pratique et de fonctionnement. C'est-à-dire que le droit à l'information et le droit à l'amendement des élus a été bafoué de manière assumé, hein, je dois dire, par la majorité.
Là, et
donc c'est ce que la justice a reconnu. Alors on a un autre recours commun cette fois-ci avec les autres groupes de l'opposition de gauche qui est en cours d'examen. On vient d'avoir les recommandations du rapporteur public qui sont à nouveau de l'annuler. Nous, notre objectif, parce que quand on dit que la justice annule le budget, en réalité, évidemment, on ne va pas demander aux gens qui ont perçu des sommes de les rembourser. C'est un acte qui est plutôt symbolique, mais qui pour nous est important, parce que c'est une manière de rappeler à Laurent Wauquiez qu'il existe des règles et qu'il ne peut pas faire n'importe quoi, et que nous avons, nous aussi, été élus par un certain nombre de citoyens, et que ces citoyens ont le droit d'être représentés représentés par des élus qui ont accès à l'information avant de voter, qui ont le droit de faire des propositions. Enfin voilà, il y a un minimum de règles à respecter. Ces règles ne sont pas respectées. Donc tant qu'elles ne le seront pas, on continuera, nous, à protester avec les moyens que nous avons. Et donc notamment la question de ces recours devant le tribunal administratif. Par contre, c'est vrai que... Il y a des choses qui commencent à bouger au sein de l'institution sur la question des conflits d'intérêts ou des soupçons de prise illégale d'intérêts qu'on a pu avoir par le passé, notamment sur la question de la neige artificielle et de Gilles Chabert. Les choses ont évolué puisque tous les élus des Républicains ont suivi une formation interne à la prévention des conflits d'intérêts et que maintenant ils sortent des assemblées ou des commissions lorsqu'un dossier et discuter dans lequel ils pourraient avoir un intérêt autre que leur mandat de conseiller régional, puisque ces gens-là ont quand même généralement beaucoup de casquettes empilées sur la tête. Donc il y a des choses qui commencent à évoluer sur cette question-là. Par contre, c'est vrai que sur le fonctionnement démocratique interne, on continue à devoir se battre, et ça a encore été le cas pendant cette session, puisque tout d'un coup, Laurent Wauquiez a décidé que tout ça n'avait que trop duré dans le temps, qu'il en avait marre d'être en session et que donc nos temps de parole, par exemple, sont passés tout d'un coup de 3 minutes à 2 minutes en cours de session. Alors que c'est des choses sur lesquelles on se met d'accord à l'avance, on a des réunions qui s'appellent des conférences des présidents pour se mettre d'accord sur ces temps de parole et que quand on... Enfin voilà, honnêtement... Voilà, 2 minutes, 3 minutes pour défendre une proposition d'intérêt général, c'est quand même pas énorme. Venir nous rabioter 30 secondes, 1 minute sur le temps de parole de l'opposition sur des sujets aussi importants, c'est... Voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est tellement pas à la hauteur de la gravité de la situation dans laquelle on est que c'est un peu désespérant.
On passe à une autre situation grave, Corinne Morel-Darleux, que vous suivez depuis très longtemps dans le cadre du plan d'aide. Et on en avait déjà parlé à cette antenne que la région Auvergne-Rhône-Alpes propose en Orient. Vous avez porté quelque chose sur le Rojava.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que Laurent Wauquiez a décidé d'avoir un plan d'aide spécifique sur le Moyen-Orient, alors qui au départ était prévu pour les chrétiens d'Orient, ouais. Mais qu'on a réussi à faire élargir à l'ensemble des minorités ethniques et religieuses persécutées au Proche et au Moyen-Orient, puisqu'il y a les chrétiens d'Orient, c'est vrai, mais il y a aussi les minorités yézidis, par exemple, qui ont été littéralement massacrés, notamment au niveau du Kurdistan irakien, par exemple. Donc voilà, on a fait cet élargissement, ce qui était une très bonne chose. De fait, ce plan a commencé à bénéficier à tout un tas de minorités, avec des actions dans des camps de réfugiés et des choses tout à fait remarquables, je dois le dire. Et là, la région a décidé, et nous l'avons aussi salué, d'élargir ce plan aux victimes de violences sexuelles. Puisqu'il faut savoir qu'un grand nombre, hélas, de femmes ont été réduites en esclavage sexuel par Daesh et beaucoup sont victimes de viols qui sont devenus des armes de guerre dans un certain nombre de régions en guerre. Donc là, il s'agissait de voter cet élargissement aux victimes de violences sexuelles et d'abonder ce plan pour qu'il puisse continuer à fonctionner, ce qui était donc une très bonne chose. Et il se trouve que au moment où nous discutions de ce plan, est tombée la nouvelle de cette annonce par un tweet de Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, qui a annoncé de manière totalement impromptue qu'il souhaitait retirer les forces américaines de Syrie. Alors, outre le fait qu'une fois de plus, annoncer une décision aussi importante par un tweet est visiblement contre l'avis de sa propre administration et contre l'avis de son comité de sécurité nationale. D'ailleurs, un de ses plus importants conseillers militaires vient de démissionner suite à cette décision. outre donc la manière de le faire, cette annonce est d'une gravité considérable, puisque aujourd'hui le président turc Erdogan a annoncé il y a une semaine qu'il voulait attaquer l'est de la Syrie, qui est une zone qui s'appelle le Rojava, qui est une zone qui est aujourd'hui auto-administrée par une coalition de Kurdes, mais aussi d'Arabes, qui est la seule zone de tout ce Proche et Moyen-Orient où peuvent cohabiter différentes communautés, différentes religions, des hommes et des femmes sur des bases féministes, laïques, écologiques, multiculturelles. C'est donc une espèce de havre de paix qui est en train de mener une véritable révolution dans cette zone de guerre.
Qui était même reconnue par le gouvernement syrien, en fait, a priori, au départ.
Tolérée, en tout cas.
Voilà.
Et du coup, le président turc Erdogan, qui ne veut absolument pas d'organisation kurde, ni chez lui en Turquie, où il continue de procéder à des arrestations de masse, notamment des élus du HDP, qui est le seul parti d'opposition en Turquie qui défend les Kurdes. Il ne veut pas non plus les voir s'organiser en Syrie le long de la frontière avec la Turquie. Et donc il a annoncé une attaque imminente sur cette zone, qui finalement est la zone où vivent les Kurdes, qui sont précisément ceux qu'on a envoyés se battre contre Daesh et qui continuent à se battre contre Daesh. Parce que contrairement à ce que dit Donald Trump, qui dit voilà, maintenant on a gagné la lutte contre l'État islamique, donc on peut retirer nos troupes, c'est totalement faux. Il existe encore des poches de résistance de l'État islamique, de Daesh, en Syrie, au niveau de la frontière notamment avec l'Irak. On sait qu'il y a 2000 combattants djihadistes de Daesh qui continuent à être actifs dans cette zone et que les combattants kurdes sont les seuls aujourd'hui à pouvoir mener ce combat et à le mener de manière effective. Ils l'ont fait avec le soutien de toutes les forces alliées françaises, américaines et compagnie pendant des années. Tout le monde a salué la libération de Kobané, tout le monde a salué la victoire à Raqqa. Et aujourd'hui, finalement, on a l'impression que tout le monde laisse tomber ces combattants kurdes qui ont été et qui sont encore en première ligne contre Daesh. Donc le retrait des forces américaines est une nouvelle terrible, parce que en gros ça laisse le champ libre à l'armée turque pour envahir cette zone de la Syrie et massacrer les Kurdes. Et je pèse mes mots hein, quand je le dis, c'est pas des mots que j'utilise à la légère. Concrètement, là c'est le risque d'un génocide qui se profile. Et qui ne suscite pas pour l'instant énormément de réactions, on ne peut pas le dire. Donc du coup, j'ai proposé à la région, au vu de cette actualité et au vu des prises de position précédentes de Laurent Wauquiez, qui, quand on l'avait interpellé au mois de janvier sur la première invasion turque en Syrie de la ville d'Afrin, ville kurde là aussi, Laurent Wauquiez avait pris des positions très claires, sans aucune ambiguïté, de condamnation de cette attaque turque et de soutien aux Kurdes, justement au nom de ce combat contre Daesh et du fait qu'ils étaient nos anciens alliés. C'est lui qui a décidé aussi de mettre au premier plan cette question de l'aide aux victimes de persécutions aux Proches et au Moyen-Orient. Il s'est lui-même rendu au Kurdistan irakien. Laurent Wauquiez y a visité un certain nombre de camps de réfugiés, notamment de yézidis. Je sais qu'il y a rencontré justement ces femmes victimes de violences sexuelles, dont certaines anciennes esclaves prisonnière de Daesh. Donc je sais qu'il est sensible à ces questions et que c'est justement peut-être un des points sur lesquels on peut se rassembler et je pensais qu'on pouvait du coup avoir une déclaration exceptionnelle d'urgence pour réaffirmer notre condamnation de ces attaques turques, réaffirmer notre soutien aux populations kurdes, que ce soit aux combattants face à Daesh ou aux populations civiles, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a aussi des gens qui vivent tout simplement dans cette zone.
Et qui ne sont pas combattants.
Voilà, malheureusement, Alors que ce projet de déclaration avait été transmis au cabinet de Laurent Wauquiez en amont, donc pour faire les choses dans les règles de l'art, Laurent Wauquiez n'était pas présent au moment où on a discuté de ce plan d'aide, auquel il tient pourtant. Et le représentant de la majorité qui a pris la parole pour nous répondre, qui est le vice-président Meunier, chargé de la question de la sécurité, qui est l'ancien député qui avait proposé d'armer les parlementaires après les attentats de Paris, a balayé cette proposition de déclaration de soutien en moins d'une minute. Voilà, moins d'une minute pour une situation absolument explosive dans une zone du monde dont la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de faire un lieu de solidarité internationale. Et le jour où on a besoin de cette solidarité internationale, où on a besoin de l'affirmer, et ben le sujet est clos et traité en moins d'une minute. Ce que nous a dit M. Meunier, c'est que c'était le droit le plus strict de Donald Trump de décider de ce qu'il faisait de ses troupes, qu'il restait une présence sur place de la France et de la Russie, et que donc c'était à la France et à la Russie de discuter ensemble et que ce sujet ne nous regardait pas.
C'est à se demander pourquoi Laurent Wauquiez n'y était pas. Est-ce que ça peut se prévoir quand même de ne pas être là au moment où il y a une discussion telle que celle-ci, et en plus d'envoyer quelqu'un qui n'est...
Écoutez, très honnêtement,
comme pour le train, n'est pas au courant.
Très honnêtement, il y a vraiment là pour le coup quelque chose que je ne m'explique pas et sur lequel je me résous pas à ne pas avoir d'explication parce que je pense que si Laurent Wauquiez avait été présent à ce moment-là en session, la discussion aurait été très différente et je pense même que nous aurions pu adopter cette déclaration. Donc je pense qu'il y a un vrai raté et j'en parlerai ou j'enverrai un courrier à Laurent Wauquiez pour qu'on puisse tirer ça au clair parce que je pense qu'il y a là un vrai loupé et je ne me résous pas à ce qu'on reste sur un malentendu. J'espère que c'est un malentendu et j'espère qu'il sera encore temps d'adopter une position très claire de la part de la région sur cette question parce que s'il y a un moment où il faut qu'on fasse preuve d'internationalisme et de solidarité, c'est bien celui-là.
Bon, ça permet de terminer sur une note presque positive ce sujet, parce que je ne savais pas comment reprendre et passer à autre chose. Ça fait trop médias qui... Bon, alors, sans transition, après tous ces morts. Mais quand même, alors, on va rester dans l'actualité sur deux choses. Tout d'abord, une facile. Que pensez-vous du mouvement Gilets jaunes ? Vous vous êtes exprimé il n'y a pas très longtemps sur Reporter. Le Diwa lui-même commence tout juste là à se dire, tiens, si on lançait un mouvement, une analyse comme ça nous permettrait de penser peut-être que si les gens ont tardé, ils avaient aussi une opinion particulière du mouvement, ils avaient besoin de l'analyser. Et vous, Corinne Morel-Darleux ?
Ouais, c'est pas une question si facile, je trouve.
Non.
C'est pas une question si facile parce que en réalité, enfin... C'est un mouvement qui est en évolution permanente entre le 17 novembre et aujourd'hui. En un mois, il s'est passé un million de choses et le mouvement a lui-même beaucoup bougé. Donc c'est difficile, je trouve, d'avoir un avis définitif et très tranché et très manichéen sur la question des Gilets jaunes. Par contre, ce dont je peux parler, c'est-à-dire moi je ne me sens pas de parler des Gilets jaunes, je ne suis pas allée sur tous les ronds-points de France et je pense qu'il y a des situations très hétérogènes. Par contre, ce qui est certain, de mon point de vue, c'est que il y a quelque chose qui s'exprime sur la question fiscale qui n'est pas uniquement de dire on veut plus d'impôts, on veut plus de taxes. C'est que je crois qu'il y a un truc qui devient insupportable dans ce pays, c'est de payer des taxes et des impôts et de ne pas en voir le fruit en termes de redistribution. Et pour moi, on est ici, dans la vallée de la Drôme, sur un cas d'école. Parce que on paye des taxes, on paye des impôts, mais les services publics de proximité que ces impôts et que ces taxes sont censés financer, on les voit partir. On n'a plus de Pôle emploi, dit. on a des personnes qui sont au chômage, qui sont donc par définition en galère, qui doivent aller à Cray pour pouvoir aller au Pôle emploi.
30 kilomètres.
On a une maternité qui a fermé avec des gens qui sont obligés d'aller à Valence.
80.
On pourrait continuer comme ça. On a des petites écoles rurales qui sont régulièrement menacées. On a régulièrement, on est obligé d'alerter, de faire des pétitions parce qu'on a des classes dans des écoles publiques qui sont surchargées. Donc il y a
le train, on en parlait tout à l'heure.
Et le train, c'est-à-dire qu'en fait tout est fait. On a l'impression pour qu'on ait de plus en plus besoin de se déplacer, de faire des kilomètres pour des démarches simples de la vie de tous les jours. Et en plus, on a de moins en moins de trains pour se déplacer. Donc il y a vraiment c'est comme si on nous mettait un panneau clignotant pour nous dire « prenez votre voiture ». Et donc, non seulement il n'y a pas ce côté palpable de se dire ok, je paye des impôts mais je le fais pour le bien commun et ça se transforme derrière en service public, en patrimoine collectif pour justement ceux qui en ont besoin d'une part, et d'autre part en plus tout est fait pour développer l'utilisation de la voiture. Et enfin voilà, on est bien placé ici pour savoir que de temps en temps, il n'y a juste pas d'autre choix en fait, si on veut pouvoir se déplacer que de prendre sa voiture. Donc du coup, pour moi, on est vraiment sur un cas d'école pour comprendre en tout cas un certain nombre de revendications des Gilets jaunes et surtout pour mettre en exergue à quel point cette manière de prendre les choses du gouvernement était totalement absurde, quoi. Totalement
absurde.
Ils ont
eu peur, selon vous ?
Je sais pas si ces gens-là ont peur. Je sais pas.
Parce que les réactions sont quand même un peu démesurées. Enfin,
on a
l'histoire française, il n'y a pas eu aussi souvent des réactions de cet ordre-là, en termes de répression, par exemple, de séparation des mouvements, d'évitement de la, comment on pourrait dire, de la confluence des luttes.
Il y a, je pense, eu un moment effectivement un peu de panique et de désorganisation et d'incompréhension surtout totale au niveau du gouvernement parce que tout d'un coup le mouvement des Gilets jaunes échappe aux formes traditionnelles de co-construction de la norme auxquelles on était habitué par ce fameux dialogue social qui finalement consiste à avoir des représentants de partis politiques et de syndicats qui vont négocier avec le gouvernement, c'est-à-dire en réalité co-construire la norme sociale. Donc, de manière policée, où on sait à qui on s'adresse, on a le 06 du bon représentant à appeler, on prend les agendas, on se donne rendez-vous et on discute. Là, c'est pas possible. Il n'y a pas de représentant. Quand il y en a, ils sont plus ou moins autoproclamés et pour certains même menacés de violence physique, ce qui par ailleurs pose d'autres questions. Mais enfin, en tout cas, voilà. Là, tout d'un coup, on sort de ces formes traditionnelles de dialogue social, etc. Mais très honnêtement, le gouvernement qui passe son temps à vouloir justement squeezer les structures intermédiaires, à dénigrer les partis politiques de l'ancien monde, à dénigrer les syndicats, à vouloir s'adresser directement aux Françaises et aux Français sans intermédiaire, cet échange direct avec un certain nombre de Français, avec le mouvement des Gilets jaunes. Sauf que du coup, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Après, ça l'est d'autant plus, très honnêtement, que le gouvernement a une réponse où... Ou clairement, enfin, je veux dire, il prend un peu les gilets jaunes pour des idiots quand même. C'est-à-dire que avoir une réponse qui ne s'attaque pas un seul moment à un certain nombre de taxes sur le kérosène, par exemple, ou à l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire où il y a en réalité aucun effort qui est demandé ni aux entreprises ni aux plus riches et où on fait des demi-mesures de pouvoir d'achat en guise d'étrenne, c'est pas à la hauteur. Non seulement c'est pas à la hauteur de la demande de justice sociale qui s'exprime dans le pays, mais en plus c'est pas du tout à la hauteur non plus de la question de la transition écologique, qui était soi-disant le premier motif pour augmenter cette taxe, qui du coup là a totalement disparu du discours gouvernemental, si tant est qu'elle avait commencé à apparaître. C'est vraiment une gestion absolument calamiteuse de l'ensemble de cet épisode. Et auquel s'ajoute effectivement la question des violences policières qui ont atteint un degré très inquiétant, y compris d'ailleurs sur les manifestants, mais aussi sur la presse. On a tout d'un coup des journalistes qui se sont retrouvés à se faire confisquer leurs équipements de protection. Puis, une fois qu'ils en étaient dépourvus, qui se sont vus la cible de tirs de flashball, etc. Enfin, c'est des trucs hallucinants. Hallucinant. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que
c'est la ZAD
du coup,
il y a un peu
de ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, plein de gens qui jusqu'ici ne s'en rendaient pas compte ont pris conscience qu'on avait un vrai souci de violence policière en France. Tout d'un coup, on a eu des articles dans des journaux sur le fait que un certain nombre d'armes sont utilisées par la police française qui sont interdites dans tous les autres pays. C'est le cas d'un certain nombre de grenades d'un type particulier, par exemple, qui sont particulièrement dangereuses, létales. On est le seul pays à utiliser ça contre sa propre population, ce qui pose quand même question. Ça a ouvert le débat aussi sur les arrestations préventives. Ça a le mérite de mettre un peu plus dans le débat public des questions qui jusqu'ici étaient portées de manière minoritaire, voire limite clandestine.
Par quelques-uns d'entre vous, dont vous faisiez partie aussi.
Tout à fait.
Et pour terminer, un dernier point d'actualité, un peu moins puisque vous avez fait cette annonce il y a quand même quelques temps. Et ça a fait du remous, évidemment, puisque les grands médias s'en servent à fond la caisse. Vous avez quitté la direction du parti de gauche qui, en soi, n'est pas forcément quelque chose qui vous désengage de ce parcours politique, puisque vous restez quand même membre. Mais en tout cas, ça a permis de se dire oui. Et peut-être une querelle avec Mélenchon, non? Vous aussi, vous préférez Ruffin? J'en sais rien.
Non.
Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Non, c'est en l'occurrence pas vraiment des questions de personne. Mais effectivement, bon, d'abord, très honnêtement, moi, ça faisait 10 ans que j'étais à la direction du parti de gauche.
Que vous avez fondé, d'ailleurs.
Voilà, tout à fait. 10 ans, c'est beaucoup. Et on passe notre temps à tenir un discours de renouvellement en politique. Et c'est pas pour rien. C'est qu'au bout de 10 ans, on perd un peu de son élan, il faut le dire. D'autant que c'est des fonctions qui impliquent beaucoup de tâches internes, qui impliquent beaucoup, dans un système électoraliste, beaucoup de temps passé à des questions de désignation de candidats, d'éteindre le feu ici
quand
ou là.
Ensuite,
passer encore beaucoup de temps à des discussions sur des alliances, sur des négociations, sur des places, sur des campagnes, sur voilà. Et en fait, tout ce temps qui est passé sur la question des élections et la question de la conquête du pouvoir par les urnes est un temps et une énergie considérables qui ne sont pas mis ailleurs et qui ne sont pas mis notamment sur des actions directes. Et il se trouve que moi, dans mon cheminement, je suis de plus en plus préoccupée par l'accélération brutale du dérèglement climatique, de l'extinction de la biodiversité, de l'urgence sociale et démocratique. Je trouve que les choses se dégradent de manière rapide depuis 6 mois.
On parlerait de collapsologie, vous le soutenez ?
Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se dit dans la collapsologie. Je prends pas tout, mais il y a beaucoup de choses que je trouve très intéressantes. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que à la lecture d'un certain nombre de rapports scientifiques, de témoignages, d'acteurs de terrain en montagne, mais pas que, à force de regarder tout ça avec beaucoup d'attention et beaucoup de sérieux, il me semble que la perspective d'un effondrement possible est de plus en plus probable. Cet effondrement, il peut prendre plein de formes différentes. Il peut être brutal comme il peut être progressif, et on peut aussi s'enliser de plus en plus dans des situations de détresse et de souffrance pour un certain nombre de populations, notamment parmi les plus défavorisées. Donc je ne sais pas si ça va arriver, ni à quel moment, ni sous quelle forme, mais en tout cas, je pense qu'il est de notre responsabilité d'alerter là-dessus, de nous y préparer et de faire en sorte de nous organiser collectivement. Et ça, ça demande du temps et de l'énergie dont je n'ai plus envie qu'il soit absorbé, pour ce qui me concerne, par des questions électorales qui, en plus, mènent souvent à avoir des propos plus modérés, à faire beaucoup aussi d'actions qui visent à se faire un nom, à apparaître, à rechercher de la visibilité médiatique. Voilà, tout ce jeu-là, je le dénonce pas et je le foule pas aux pieds, j'y ai participé. Et je ne jette pas la pierre à ceux qui continuent à y participer, parce que je continue à penser qu'on a besoin de partis, qu'on a besoin d'élections et qu'on a besoin de gens qui essayent de conquérir le pouvoir de cette manière-là. Simplement, pour ce qui me concerne, ce processus-là est devenu trop envahissant, et je veux reprendre mon temps, mon énergie, ma liberté de parole et puis surtout ma capacité à avoir une action beaucoup plus concrète et immédiate, notamment dans des mouvements de désobéissance civique par exemple. Je m'intéresse beaucoup au mouvement qui s'est développé en Angleterre, qui s'appelle Extinction Rebellion, qui est en train de se monter en France. Je trouve qu'il y a des choses à faire, et surtout qu'on n'a plus le temps en fait d'être dans la demande. On n'a plus le temps de demander par des pétitions, par des manifestations, au gouvernement ou au préfet ou à Laurent Wauquiez ou à je ne sais qui de bien vouloir agir. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe, nous, à l'action. Et quand on a besoin que les choses passent par le niveau national, le niveau gouvernemental ou le niveau législatif, je pense qu'il faut qu'on arrête de penser qu'on va réussir à convaincre ces gens-là. Et je pense qu'il faut qu'on les oblige. Et obliger, ça passe par des actions disruptives, comme dirait l'autre, c'est-à-dire qui dérangent, qui bloquent, qui sabote, et ça, c'est plus facile à mener quand on n'est pas pris dans une stratégie électoraliste et qu'on est libre de ses mouvements, de ses paroles, de tenir des propos peut-être plus radicaux qui s'imposent, je trouve, dans la situation d'aujourd'hui.
Bon, c'est quoi, bientôt un gilet sur vos épaules ou un pavé dans la main? Attention, Corinne Morel d'Arleux. Et donc, c'est votre dernier mandat?
Très honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je l'envisage effectivement plutôt comme mon dernier mandat. Après, je prends pas d'engagement ferme à ce micro, parce
faut
que
jamais dire jamais.
Voilà, exactement. J'espère en plus que la situation va suffisamment bouger d'ici 2021 pour qu'il soit envisageable d'avoir des actions fortes en ayant les moyens des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, parce que je suis pas du tout en train de jeter le système institutionnel à la poubelle.
Si on voulait vous chercher d'ailleurs pour réintégrer ce système, je sais pas moi, on pourrait vous demander vous représenter la députation, ce qui avait été une fois une possibilité à la mairie de Die.
Moi, je continue. Enfin, moi, j'ai.
C'est presque une action de terrain plus concrète encore. C'est vrai que la région, on voit bien et on l'a décrit depuis un certain nombre d'émissions, puisqu'il n'y a qu'un budget à gérer et à faire des arbitrages, que c'est très virtuel finalement.
Moi, je continue à faire de la politique et je continuerai à faire de la politique. Ce que je ne veux plus faire, c'est... ce que j'ai
c'est
plus envie
parti,
de faire,
quoi.
En fait, c'est faire de l'interne. J'ai envie de me tourner vers l'extérieur et je n'ai plus envie de demander des choses, d'être en train de réclamer. Et j'ai plus envie non plus d'être sur du témoignage, en fait. Là, la session dont on vient de parler à la région, je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte à quel point ça peut être frustrant quand on est engagé en politique, quel que soit son bord. Je crois qu'on s'engage pour changer la vie des gens. Ce sentiment d'impuissance et de frustration à se sentir impuissant à convaincre, à faire bifurquer les choses, à aider à des prises de conscience d'élus et du coup à pouvoir imposer des mesures qui permettent aux gens de vivre mieux, est vraiment une vraie source de frustration et de souffrance en fait pour l'élu que je suis. Et j'éprouve le besoin aujourd'hui d'avoir des actions plus immédiates, plus concrètes. On parlait tout à l'heure de planter des arbres. Juste concrètement, je pense que voilà, il y a aujourd'hui deux choses à faire, c'est planter des arbres et bloquer des chantiers, quoi. Parce que ça, pour le coup, ça a un effet immédiat en termes de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, de garder des terres qui pourront être des terres agricoles pour quand on en aura besoin sans être couvertes de béton, de préparer le monde d'après. Voilà des choses qui ont une utilité immédiate, concrète, qui sont réalisables, voilà, qui pour moi aujourd'hui font sens.
Merci Corinne Morel d'Arleux. On se retrouve quand la prochaine fois ?
C'est une excellente question. Il faut que je compulse le calendrier du premier semestre pour vous donner rendez-vous pour la prochaine session.
Ben voilà, pour une fois, on ne le dira pas. Bonne fin d'année.
Merci beaucoup.
Okay, the bird. L'interview du jour. L'interview du jour.